Radio Kapi. Oh, Kapi.
Fin cette nuit de la campagne électorale en République démocratique du Congo sur terrain, la CENI poursuit le déploiement des kits électoraux dans les sites de vote. C'est le cas à Kinshasa à Uvira. Nous ferons le point de la situation dans la capitale avec son directeur de communication. Carence du carburant dans la ville de Kisangani avec un impact sur le prix. Alors que le litre à la pompe revient à 4000 francs congolais et coûte 10 000 voire plus chez les revendeurs. L'invité du journal est Gilbert Makelele, président du conseil d'administration du réseau de coopératives de producteurs de café et cacao de la RDC. Il réagit positivement à l'annonce de la Chine de supprimer le droit de douane à l'exportation sur notamment le café ainsi que le cacao. Bon après-midi, jour J-2 pour les élections en République démocratique du Congo. Le matériel électoral est en cours de déploiement dans les sites de vote de la ville-province de Kinshasa. Son directeur de communication nous a affirmé ce lundi que cette opération a débuté le week-end, notamment dans les coins à accès difficile. Il se poursuit ce lundi et demain mardi sur toute l'étendue de la ville. Jean-Baptiste Iti Poladi à Grasse Amzati.
Je vous confirme que le déploiement du matériel électoral dans la ville province de Kinshasa a commencé déjà avant-hier. Et ce matériel est déjà prépositionné aux différents sites de formation dans la ville de Kinshasa. Dès qu'on termine la formation aujourd'hui, chaque équipe se déploie avec le matériel vers le site de vote. C'est au niveau du site de vote que vous trouverez les centres de vote. À l'intérieur des centres de vote, il y a le bureau de vote. Kinshasa, c'est le moindre des soucis de la CENI. Même à la veille du vote, Kinshasa peut être déployé. Et nous commençons généralement aux endroits les plus éloignés, accès difficile de Kinshasa. Par exemple, les îles. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des îles où il y a des électeurs à Kinshasa. Et la CENI déploie le matériel au niveau de ces îles sur le fleuve Congo. Nous avons par exemple la zone de Mongafula qui a une grande partie qui est rurale, la commune de Maluku, la commune de Nsele, de Kimbaseke.
Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la CENI. Dans le Sud Kivu, l'opération de déploiement des kits électoraux est à sa deuxième journée ce lundi dans les 126 sites vote de la circonscription électorale d'Uvira. Hier dimanche, les kits ont été acheminés vers Bijombo dans le haut plateau de la chefferie de Bavira. L'opération se poursuit ce lundi vers Kalundu et Makobola. Demain mardi, il atteindra la plaine de la Ruzizi et les moyens plateaux de l'Imira en chefferie de Bafuliru. Au micro de Fiston Goma, le chef d'antenne de la CENI Uvira, Rodrigue Katanga encourage la population à accompagner le processus et à aller voter en masse ce mercredi 20. On l'écoute.
À la population, c'est dès lors confirmé que les élections auront lieu le 20 décembre. Nous sommes prêts avec tout le matériel et nous avons déjà déployé presque une grande partie du matériel dans nos sites de vote. À la population de nous accompagner le jour-là, le 20 décembre 2023. Le jour-là qu'on a annoncé la ville morte, on était en pleine opération de formation des membres de compilation. Alors on a typiquement dit à tout le monde de rester à la maison pour éviter des incidents. Moi-même, j'ai été victime de cet incident. J'ai quitté le bureau pour aller à l'entrepôt, récupérer nos techniciens qui étaient là en plein travail. On a cassé le véhicule avec des pierres au niveau du monument. On a essayé de parler avec les colonels de FARDC. Nous ont augmenté l'effectif de la sécurité. Donc là, nous sommes en sécurité avec les FARDC et la PNC. La population aussi peut nous aider à sécuriser les agents dans les sites où ils sont déployés.
À Chikapa, dans la province du Kasaï, les femmes candidates ont peiné pour battre campagne. C'est le constat fait par l'ONG AFDDK, Association des femmes dynamiques pour le développement du Kasaï. Sa coordonnatrice, Alphonsine Bilonda, attribue cela au manque de moyens financiers. Elle s'est confiée à ce sujet à Vanessa Kongolo, notre envoyée spéciale à Chikapa.
La campagne des femmes ici sur la ville de Chikapa se déroule bien. Elles ne sont pas nombreuses. Et elle fait leur campagne, mais plus avec beaucoup de timidité. Parce que les femmes ne veulent pas voter pour les femmes. Elles exigent aux femmes de leur donner des pagnes, des t-shirts, l'argent. Par contre, les femmes sont faibles économiquement. Même dans les partis où les femmes se trouvent, il n'y a pas les financements pour les candidates. Il n'y a que des hommes qui ont des moyens, qui sont des anciens députés, qui ont leurs moyens propres, qui battent fortement leur campagne. Cette fois-ci, il y a même les diamantaires qui sont entrés en politique, qui font leur campagne avec leur argent. Ils ont les moyens. Mais pour les femmes, il y avait une structure femme main dans la main de Madame Nathalie Kambala qui était venue vraiment former les femmes, les fortifier, donner les atouts pour qu'ils puissent battre les campagnes.
Justement, ce lundi 18 décembre marque le dernier jour de la campagne électorale. Occasion pour Radio Okapi de vous faire un point sur quelques préoccupations à caractère économique qui ont émaillé cette période de campagne. Sur le terrain économique, le coût de la vie de plus en plus cher, caractérisé par une forte inflation, a constitué l'essentiel du discours des candidats et des revendications du public. Cynthia Bachizi et Nabizana.
Partout où les candidats à la présidentielle sont passés, les citoyens, futurs électeurs, ont demandé d'œuvrer à la baisse du dollar américain et à la stabilité du franc congolais qui a beaucoup perdu de sa valeur. Une dépréciation de la monnaie locale qui a des incidences sur le pouvoir d'achat du Congolais. Les différents candidats ont promis de s'attaquer à cette inquiétude une fois élus. Autre préoccupation majeure, la relance du tissu industriel comme fer de lance du développement de la RDC. Ainsi, Félix Tshisekedi promet de remettre sur les rails la MIBA, ex-fleuron de l'industrie minière congolaise. Moïse Katumbi, de son côté, promet de vrai pour que les richesses minières servent davantage les Congolais. Une autre question qui s'est invitée dans le débat, c'est le déficit d'infrastructures avec des routes de desserte agricole en piteux état. Conséquence, difficulté non seulement d'évacuer la production agricole excédentaire dans le Congo profond, mais aussi difficulté d'acheminer les produits vivriers importés. L'exemple récurrent avec des tonnes de maïs ou autres marchandises souvent bloquées dans des gares faute de locomotives en campagne. Les candidats se sont engagés à solutionner toutes ces problématiques sans donner plus de détails. Ce que regrettent des analystes qui auraient voulu un débat d'idées sur ces aspects pour édifier davantage les Congolais.
Nous sommes à Kisangani à présent. Rouler sur une moto ou dans un véhicule devient un luxe. En cause, la rareté du carburant ou la cherté du prix chez les revendeurs des produits pétroliers qui ont pourtant le privilège d'être servis en priorité dans les stations-service. Alors que ces dernières livrent le produit à 3 970 ou 4 000 francs congolais en litre d'essence, les Kadhafi revendent à 10 000 francs congolais voire plus. La division provinciale de l'économie dit travailler avec la police du parquet judiciaire en vue de traquer tous les vendeurs. C'est un reportage signé Jacques Omokonkole.
L'approvisionnement en carburant dans les stations-service opérationnelles n'est pas tout à fait évident. Il faut passer des journées entières ou au besoin passer la nuit sur place pour en avoir le lendemain. Les motos et les détenteurs des fusées bidons en surnombre créent un désordre succulent quasiment impossible à gérer. Témoignage.
Les Kadhafi, un litre c'est 9 000. Même 10 000, 12 000 à la station, c'est au moins 4 000. C'est pour cela qu'on avait décidé de passer la nuit ici jusqu'à maintenant, celui-ci.
La rareté du carburant serait due à la détérioration de la RN4, reconnaissent tous les intervenants dans ce secteur. Voilà qui pousse ce conducteur de mototaxi à solliciter l'intervention du gouvernement.
Nous demandons au gouvernement de nous aider, puisque les Somaliens ne veulent pas ouvrir leur station. Ils sont pénalisés vraiment.
Cependant, la spéculation des prix est une manigance orchestrée par les revendeurs des produits en connivence avec les pompistes, comme le témoigne le chef de division provinciale de l'économie, Roger Mabamé.
Les prix qui vendent cette semaine, c'est différent avec les prix qui vendent aux gens là de béton. Vendre au Kadhafi à un prix supérieur, 6 000, 7 000, et ces Kadhafi-là qui revendent encore à 10 000.
Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ceux qui se livrent à la spéculation, déclare Roger Mabamé. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et cette carence de carburant à Kisangani impacte la province du Maniema, précisément la ville de Kindu, qui s'approvisionne au chef-lieu de la province de la Tshopo. C'est depuis hier dimanche que toutes les stations-service de Kindu sont restées fermées. Le prix du litre à la pompe a galopé. Interrogé, le président des pétroliers du Maniema a fait savoir qu'ils n'ont pas de stock suffisant. Florence Kiza Alunga, reportage.
Un litre de carburant se négocie actuellement à 12 000 voire 13 000 francs congolais au lieu de 7 000 et 8 000 francs. Les litres comme auparavant chez le revendeur communément appelé Kadhafi, où il y a des carburants et on n'affiche même pas les prix. Ali Babou Nazareth explique les causes de cette carence.
En fait, nous sommes en difficulté du fait que nous sommes tombés en rupture des stocks. Cette fois-ci, nous avons un grand problème parce qu'on n'a pas vraiment grand espoir, parce que Kisangani qui nous ravitaille est aussi en pénurie. Et du coup, nous nous remettons entre les mains des autorités parce qu'on est vraiment bloqué. Ce qui fait en sorte que la situation puisse se répéter, c'est en un seul mot, l'émaniement est enclavé et l'émaniement a des difficultés d'être fourni en carburant.
Du côté des transports en commun, le prix de la course a doublé, voire même triplé. Témoignage.
On ne sait pas, nous vivons dans quel pays, d'autant plus qu'on nous dit qu'il faut conserver les acquis. Est-ce que ça, vraiment, ce sont les acquis? Quand nous prenons déjà les taxis à 5000 francs pour une petite distance de moins de 3 km, imaginez-vous ce que ça fait pendant que notre panier ménager est un peu perturbé par cette situation. La course que nous payons aujourd'hui, on l'a payée à 3000 francs, mais aujourd'hui c'est à 5000 francs congolais. Voyez ce que ça fait lorsque vous quittez des 1000 francs à 5000. C'est déplorable.
Les pétroliers du Maniema demandent aux autorités de les autoriser de transporter les carburants, même par avion. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous sommes au Kouilo à présent. Plusieurs voix s'élèvent pour déplorer l'état actuel de la route nationale numéro 17 dans son tronçon compris entre Mongata et la ville de Bantundu en allant vers Bagata. Et parmi elles, celle du professeur Gary Sakata, du professeur Julien Tazi Tienabe et puis celle du notable Swata et autres. Et d'après eux, cette route d'intérêt économique capital reliant la ville de Bantundu à Kinshasa est dans un état de dégradation très avancé causant l'enclavement total de Bantundu. Profitant du passage samedi de Félix Antoine Tshisekedi, candidat président de la République à Bantunduville. Dans le cadre de sa campagne électorale, ils ont plaidé pour que cette route soit asphaltée pour désenclaver et booster le développement de la ville de Bantundu. On les écoute tour à tour au micro d'Irène Boma.
Ce que nous souhaitons, la construction de la route Mongata-Bandundu qui tient à cœur toute la population de Bandunduville ainsi que celle du territoire de Bagata parce que cela comporte des aspects économiques extrêmement importants et ça permet une libre mobilité entre Kinshasa et Bandundu. Nous espérons que cela va se réaliser.
Vous savez, je dois vous dire sincèrement que chez nous, l'opinion publique ne cesse de dire les sots qui construira, l'idiot qui construira la route Mongata-Bandundu sera notre roi. La ville de Bandundu est une ville totalement enclavée. Son désenclavement passe nécessairement et obligatoirement par la construction de la route Mongata-Bandundu. Dire qu'elle est dans un état, c'est trop dire. Il n'a pas d'état. Depuis plusieurs années, cette route n'existe plus.
Ça sert à faire sortir les produits agricoles et ça nous donne aussi les produits manufacturiers. Il y a une grande difficulté parce que pour franchir cette route, ça devient un problème.
Et notre souhait le plus ardent, nous avons le problème de la route Bandundu-Mongata qui met Bandundu dans l'enclavement.
Pour sa part, le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a affirmé être au courant de cette situation et a annoncé la modernisation de la RN17 une fois réélu. Au Nord Kivu, le contingent ougandais de la force régionale de l'EAC a achevé le week-end le retrait de ses troupes du territoire de Rutshuru. Selon des sources du commandement de cette force, les dernières troupes ougandaises et leurs équipements militaires ont quitté le sol congolais le 14 décembre. Ces troupes ougandaises étaient déployées sur l'axe Bunagana, Shengerero, Rutshuru, Kiwanja, Amabinga. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Le commandant du dit contingent, le colonel Walaka Iruba, cité par un poste X de l'EAC-RN, déclare que ses troupes travaillaient en étroite collaboration avec les FARDC, cela même si plusieurs sources locales accusent cette force d'avoir collaboré avec les rebelles du M23 dans leur zone de déploiement où les FARDC sont complètement absentes. Rappelons que ce retrait cadre avec l'expiration du mandat non renouvelé de la force régionale le 8 décembre dernier.
Actualité internationale.
En Guinée, un important incendie s'est déclaré ce lundi dans le principal dépôt d'hydrocarbures de la société publique guinéenne de pétrole à Conakry. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés selon une source médicale et des habitants. En réaction, le gouvernement guinéen a annoncé que les écoles resteraient fermées ce lundi. Il a demandé aux travailleurs de rester chez eux. Les stations-service sont restées fermées. Un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités, indique un communiqué du gouvernement. Et puis le nombre de journalistes tués à Gaza ne cesse d'augmenter selon le Comité pour la protection des journalistes et la Fédération internationale des journalistes. Plus de 60 professionnels des médias sont morts depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre le Hamas et Israël, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier de l'histoire récente pour la profession. Plusieurs ONG dénoncent le fait que les journalistes seraient délibérément visés et demandent des comptes à l'armée israélienne.
L'invité.
Le président du conseil d'administration du réseau des coopératives de producteurs de café et cacao de la RDC réagit après l'annonce de la Chine de supprimer le droit de douane à l'exportation sur notamment le café et le cacao. C'est une nouvelle qui tombe à pic car nous avons redoublé d'efforts pour pouvoir accroître nos exportations et production du café et cacao, celle d'exporter à environ en 2030 120 000 tonnes de café et 240 000 tonnes de cacao, a dit Gilbert Makelele. Il répond ici aux questions de Cynthia Abachizi Nabi.
Gilbert Makelele, bonjour.
Bonjour Madame Cynthia.
Comment votre réseau accueille cette nouvelle de supprimer les tarifs douaniers sur certains produits exportés vers la Chine?
Oui, c'est une très 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 bonne nouvelle parce que la Chine constitue un très très grand marché, madame, comme vous le savez, surtout par rapport à notre vision d'exporter à l'horizon 2030 120 000 tonnes de café et 240 000 tonnes de cacao. Donc automatiquement avec la Chine, ça nous donne même assez du courage de produire assez du café, cacao, surtout que nous avons le climat très favorable en République démocratique du Congo pour produire le café ainsi que le cacao.
Qui sont éligibles aujourd'hui à cette mesure prise par la Chine?
Nous avons pris contact déjà avec les importateurs chinois du café et ils nous ont dit que comme la décision est déjà levée, la mesure est levée, et tout ce que nous devons faire, c'est de nous enregistrer au niveau de leur ministère en charge de la sécurité alimentaire, l'agriculture, pour qu'on l'on puisse nous attribuer les numéros. Et aussitôt que nous avons les numéros, c'est fini, nos produits peuvent déjà commencer à entrer au niveau de la Chine sans tracasserie.
Le café qui est concerné, est-ce que c'est un café marchand ou c'est plutôt un produit fini, un café transformé?
C'est-à-dire que la Chine est ouverte à toutes les options. Soit, si nous voulons, nous exportons les cafés des spécialités qui vous trouvent, soit si nous voulons, nous exportons les cafés Robusta ou soit les cafés moulus ou les cafés torréfiés. Donc la Chine est vraiment ouverte à toutes les options possibles.
Pourquoi selon vous la Chine aujourd'hui décide d'accorder ces facilités-là aux entrepreneurs au niveau de la RDC?
Bon, écoutez, je crois qu'à ce niveau, nous devons féliciter d'abord notre gouvernement. Ça prouve à suffisance que le gouvernement a développé de très très bonnes relations stratégiques avec la Chine. Deuxièmement, il faut également féliciter tous les producteurs du café, cacao de la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, Madame Cynthia, pour produire les cafés de haute gamme.
Donc c'est pour vous une reconnaissance de la qualité du café produit en RDC.
Exactement, c'est une très très bonne reconnaissance de la qualité du café produit par les petits producteurs de la République démocratique du Congo.
Terminons avec les défis pour ces secteurs. Selon vous, quels sont les défis qui restent encore à relever?
Oui, le secteur du café, c'est un secteur qui vous prend autour de 250 milliards de dollars dans le monde. Donc au niveau de la RDC, nous avons pu exporter à 13 500 tonnes de café et nous avons pu rapatrier autour de 16 millions de dollars, ce qui est vraiment minime.
Pour l'année 2022.
Parce qu'effectivement, il y a des défis. Et quels sont les défis à relever? Le tout premier défi, c'est d'abord la loi agricole en elle-même. Depuis que l'a été promulguée, c'était le 24 décembre 2010. Elle était censée entrer en vigueur en juin 2011. Mais jusqu'à présent, on est toujours en attente de cette loi. L'article 56 à 61 stipule que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, devrait créer le FONADA, qui est le Fonds national pour le développement de l'agriculture. Mais jusqu'à présent, depuis 2011-2010, ça n'a jamais été créé. Il est prévu également la création de la Banque des crédits agricoles. Écoutez, jusque-là, on n'en a pas. Il est prévu également les fonds de garantie agricole. On n'en a pas toujours. Le quatrième défi, c'est les routes, Madame Cynthia.
Les routes de desserte agricole.
Nous sommes des paysans. Donc, le café, il n'est pas produit en ville, il est produit dans les villages. Nous avons besoin des routes nationales, provinciales et les routes des dessertes agricoles asphaltées. Nous
pour évacuer toute la production.
Exactement. Le cinquième défi, c'est la sécurité. Nous demandons au gouvernement de travailler d'arrache-pied pour libérer tous les pays afin que tous nos petits producteurs de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo puissent exporter leur café parce que nous avons suffisamment de stocks de café qui sont bloqués dans ces zones occupées par les agresseurs. C'est pas juste que nous puissions exporter 13 500 tonnes. Vous voyez, ça c'est la production d'un petit producteur brésilien.
Gilbert Makelele, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Cynthia.
Fin de ce journal présenté par Babel Pongomassimango avec Pierre Diassinois, la technique, et Élisée Tchikota, la coordination. Merci de nous avoir suivis.